Bien, si vous le voulez bien, nous allons commencer. Mais avant que je n'intervienne, merci. Je voudrais remercier tous les auditeurs qui tout au long de ce cycle consacré donc à spiritualité, religion et société nous ont accompagnés lors de cette première année de l'Université populaire de Nîmes. Parce que pour nous qui avons fondé donc cette université populaire, ça a été d'un grand réconfort de savoir que ce qu'on avait proposé avait intéressé pas mal de gens avec des fluctuations malgré les déplacements aussi d'un lieu à l'autre. Vous en connaissez la raison, puisque la municipalité ne nous donne pas de salle attribuée et nous allons connaître le même problème avec des fluctuations au mois de janvier, février particulièrement, parce que c'est une période préélectorale pour les régionales et puis nous ne disposerons pas toujours de cet auditorium. À titre indicatif, le prochain cycle qui s'intitule Mémoire et Histoire commencera le vendredi 15 janvier par une séance inaugurale qui aura lieu à la salle Théris au lycée Daudet et à 19h le 15. C'est un vendredi.
Le 10.
Le 10.
2010. La machine a remonté le temps. Donc 2010 à 19h. Avec l'intervention de M. Enzo Traverso. Donc, sur les usages politiques du passé. Ce sera la conférence inaugurale qui débutera ce nouveau cycle et nous espérons que vous viendrez nombreux. Bien, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Bon, c'est à moi de terminer, de clore ce cycle. Spiritualité, religion et société. Mais ce fait de clore, c'est uniquement dû au hasard. Plusieurs approches sur ce thème vous ont été proposées, plusieurs grilles discutées. Mon intervention n'a pas pour but de clore, de livrer une conclusion. C'est plutôt un nouveau questionnement. Et donc de questionner encore ce qui a trait au thème des religions, au thème des spiritualités et sociétés, et ce, à partir de Camus, pas uniquement sur Camus, mais à partir de Camus, donc, sur le XXe siècle. Et puis lorsque j'ai choisi d'intervenir sur Camus, évidemment, j'étais loin d'imaginer que mon choix allait coller à l'actualité, puisque vous savez que depuis, un président de la République a manifesté son intention d'accueillir les cendres d'Albert Camus au Panthéon, mais vous me permettrez de revenir là-dessus à la fin de mon intervention. Donc, pourquoi ai-je choisi ce titre avec deux termes fortement emprunts de spiritualité et religion? Peut-on être un saint sans Dieu? D'abord, il me faut resituer cette interrogation dans le roman d'Albert Camus, La Peste. Je vous rappelle que La Peste, date de parution, c'est 1947. Une petite mise au point, pour symboliser tout ce qu'il veut et signifier aux hommes la fragilité de leurs conditions, Albert Camus, donc, a imaginé une épidémie de peste frappant la ville de Rouen en 1949, 4 et des pointillés. Un médecin, donc le docteur Rieux, en tient la chronique, et je cite, pour témoigner en faveur des pestiférés et prouver qu'il y a dans les hommes plus de choses à admirer que de choses à mépriser. On va revenir là-dessus. Cette question, plutôt cette problématique, est posée par un interlocuteur privilégié du docteur Rieux, Tarou. Tarou, c'est un être qui vit depuis sa jeunesse au bord du désespoir, parce qu'il a pris conscience de la fragilité avec laquelle les hommes acceptent le mal. La phrase, une de ces phrases est très très connue, c'est « Chacun apporte en soi la peste ». D'où est-ce que c'est tiré d'un passage d'un dialogue avec le docteur Lilleux, que je vais vous lire, qui servira de point d'appui. En somme, dit Tarot, avec simplicité, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment on devient un saint. Mais, vous ne croyez pas en Dieu ? Demande le docteur Lilleux. Justement, peut-on être un saint sans Dieu ? C'est le seul problème concret que je connaisse aujourd'hui. Et le docteur Rieux de répondre, je me sens plus de solidarité avec les vaincus qu'avec les saints. Je n'ai pas de goût, je crois, pour l'héroïsme et la sainteté. Ce qui m'intéresse, c'est d'être un homme. Et pour clore le petit extrait, Tarou répond oui. Nous cherchons la même chose, mais je suis moins ambitieux. Donc, dans un premier temps, j'essaierai de montrer qu'il s'agit d'une interrogation, douloureuse, du sens de la vie. Au moment où, comme aurait dit Philippe Corcuff, mais excusez pour ce soir, au moment où la société connaît les prémices d'une crise du sens. Tout d'abord, ce sens est explicitement mis en question à la suite de la mort de Dieu, qui a été prononcée au siècle précédent par Nietzsche, dans le sillage duquel Albert Camus se reconnaît explicitement. Vous vous souvenez de cet extrait du « Des savoirs » dont Marjolaine Pierre vous a parlé. Où est passé Dieu ? Je vais vous le dire. Nous l'avons tué, vous et moi. Nous sommes tous ses assassins. Mais comment avons-nous fait cela ? Est-il encore un haut et un bas ? N'aurons-nous pas comme à travers un néant infini ? L'espace vide ne répand-il pas son souffle sur nous ? Interrogation donc que ne manque pas d'interroger Camus. Cette mort de Dieu, ça peut constituer un des plus importants des événements récents. Je passe sur ce qui avait été développé lors de précédentes conférences où, sous l'effet d'un puissant courant historique qui trouve son origine dans le rationalisme cartésien et aboutit à la toute-puissance de la science en passant par les Lumières, la croyance en Dieu est d'abord remplacée par les valeurs du positivisme, lesquelles sont à leur tour mises à mal, mises en cause. Apparaît alors le règne de l'absurde comme celui du rien. Ensuite, il est indéniable que Camus est tourmenté par l'idée de Dieu et que son œuvre est marquée par de nombreuses références judéo-chrétiennes. Quelques exemples. Dans L'homme révolté, cette phrase « Rien ne peut décourager l'appétit de divinité au cœur de l'homme ». La souffrance humaine due à l'absence de Dieu dans son œuvre constitue un leitmotiv. À noter que cette absence de Dieu n'apporte guère le confort intellectuel et qu'elle suscite beaucoup plus d'interrogations, beaucoup plus de questions qu'elle n'en résout. Dans le malentendu, qui avait pour titre originellement « Dieu ne répond pas ». Mal entendu. Dieu ne répond pas à l'appel de Maria qui lance Oh mon Dieu, je ne peux vivre dans ce désert. Ayez pitié de moi. Tournez-vous vers moi. Entendez-moi. Donnez-moi votre main. Là n'est pas sans rappeler l'imploration du Christ qui supplie son Père. Et évidemment, cet appel pathétique n'est pas entendu. Je disais manque de confort intellectuel qui suscite beaucoup de questions, plus qu'elle n'en résout. Et dans le livre La Chute, qui constitue à mes yeux le chef-d'œuvre de Camus, beaucoup plus que La Peste, beaucoup plus que L'Étranger, qui me semble le livre le plus fini. Donc dans La Chute, en 1956, ce manque de confort, on pourrait y voir cette cellule de basse-fosse, qu'au Moyen-Âge, on appelait le mal-confort, néologisme de Camus, le mal-confort. Et dans cette cellule de basse-fosse, qu'on appelait le mal-confort, le héros de La Chute, Jean-Baptiste Clamence, l'a défini ainsi. On vous y oubliait pour la vie. Cette cellule se distinguait des autres par d'ingénieuses dimensions. Elle n'était pas assez haute pour qu'on s'y tînt debout, mais pas assez large pour qu'on puisse y coucher. Il fallait vivre en diagonale. Qui est ce on ? Qu'est-ce que ça signifie, vivre en diagonale ? Alors celui qui parle, je l'ai dit, c'est Jean-Baptiste Clamence. Jean-Baptiste Clamence, qui se définit dans La Chute comme un prophète vide, pourtant médiocre. Prophète vide, pourtant médiocre. Et après qu'il a subi une brisure, il s'est réfugié, notons encore les termes, dans un désert de pierre, de brume et d'eau pourrie. C'est Amsterdam. Amsterdam dont les canaux symbolisent les cercles de l'enfer de Dante. Et on peut noter aussi que, c'est un petit travail amusant, s'il a choisi de donner à son personnage le prénom de Jean-Baptiste, c'est une allusion évidente, donc au saint. On retrouve une phrase qui justifie cette interprétation, puisque vers la fin de La Chute, Jean-Baptiste Clamence énonce cette phrase, « On me décapiterait et je n'aurais plus peur de mourir. Je serais sauvé. Au-dessus du peuple, assemblé, vous élèveriez alors ma tête encore fraîche pour qu'ils s'y reconnaissent et qu'à mesure, je les domine exemplaire. Tout serait consommé, j'aurais achevé, ni vu, ni connu, ma carrière de faux prophète qui crie dans le désert et refuse d'en sortir. » Ça, c'est le prénom. C'est le prénom Jean-Baptiste. Mais si on regarde le nom Clamence, Clamence, c'est un homonyme homophone. Un homonyme, donc, homophone de Clamence. Or, qu'est-il dit à propos de Jean-Baptiste ? C'est vox en latin. La voix qui clame dans le désert. Et on retrouve en fait ici les allusions donc à Jean-Baptiste, Clamence in deserto, et donc cette voix qui prêche dans le désert, mais un prophète vide. Il y a une autre allusion, et on pourra y revenir tout à l'heure lorsqu'on entamera la partie dialogique. Vous savez aussi que Jean-Baptiste Clément se définit comme un juge pénitent. C'est-à-dire qu'il a fait pénitence avant. Il a avoué ses fautes. Du coup, il se permet de juger les autres avec d'autant plus de rigueur, d'autant plus de hauteur. Puisqu'il a été pénitent, il se met au-dessus des autres. Il y a une autre allusion aussi à un moment donné, où il parle de son frère, entre guillemets. Son frère, le Christ, dont il dit qu'il n'est pas si innocent que ça. Parce que ce frère, entre guillemets, il n'était pas si innocent que ça, parce qu'à cause de lui, il y a eu le massacre des innocents. Et donc, il est logique que son père l'ait abandonné. Donc l'interrogation douloureuse du sens de la vie à la suite de la mort de Dieu et le fait que Camus soit tourmenté par l'idée de Dieu m'amène à faire quelques remarques. À partir d'une autre citation de son œuvre, dans La Peste toujours, il est dit « Puisque l'ordre du monde est réglé par la mort, peut-être vaut-il mieux pour Dieu qu'on ne croit pas en lui et qu'on lutte de toutes ses forces contre la mort sans lever les yeux vers ce ciel où il se tait. » Donc l'idée de Dieu contre laquelle Camus s'inscrit en faux n'est pas indéterminée. Pour lui comme pour Nietzsche, il s'agit de l'idée chrétienne de Dieu, telle qu'elle a prévalu, telle qu'elle a dominé dans la culture occidentale. Ensuite, si on peut qualifier Camus, comme certains l'ont fait, d'humaniste athée, il faut tout de suite préciser dans son œuvre que ce n'est pas par indifférence que Camus est athée. Au sens où, par l'effet d'un non-dit, d'un impensé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas pensé, il omettrait, il oublierait dans l'élaboration des fondements de l'humanisme la question de Dieu. Je vous rappelle que le véritable athée, au sens propre du terme, athée, est celui pour qui la question de Dieu ne se pose pas. Au contraire, Camus, lui, se confronte à cette question de Dieu. Par ailleurs, la position de Camus n'est pas tout de suite immédiate. Elle n'est pas antithéiste. Dans la mesure où dans son œuvre, elle ne prend pas la forme d'une négation. Dans le mythe de Sisyphe, il souligne qu'il n'argumente pas contre l'existence de Dieu. Mais il y a un fait certain dans son œuvre, c'est qu'il ne croit pas en Dieu. Donc ni la raison, ni l'expérience, pour lui, ne permettent de trancher la question. Donc, l'agnosticisme lui paraît, au début, la voie la plus cohérente. Mais Camus ne va pas rester à cette postulation. Postulation, c'est un terme pascalien. Et de dire qu'il serait agnostique et non pas athée, mais on peut aussi affirmer que c'est une forme spécifique aussi de son athéisme, puisque dans son agnosticisme, il sait que dans la pratique, dès le moment où il est, où l'on est, si vous préférez, engagé, Pascal disait embarqué, la question de Dieu ne peut pas rester en suspens. Il sait que dans l'action, et on pourra le développer pour autre chose, dans l'action, on ne peut rester dans la décision et la neutralité. Ça, c'est une phrase très très importante dans l'œuvre de Camus, hein, qui sous-tend son œuvre. Donc, il sait que dans l'action, on ne peut pas rester ni dans la décision, ni dans la neutralité. Et donc, à partir de ce moment-là, il faut nécessairement choisir et, référence à Pascal, parier. Parier pour ou contre Dieu. C'est-à-dire vivre. Vivre comme si Dieu existait ou n'existait pas. Donc, du pari auquel Pascal habitait, Camus ne retient implicitement que le principe. Du pari de Pascal, il ne retient que le principe et non pas son but, et non pas son sens, et non pas son dessein apologétique. C'est ainsi que dans la perspective athée, je dis bien la perspective athée qui est la sienne, il définit l'homme absurde comme celui qui, sans le nier, ne fait rien pour l'éternel. C'est-à-dire, au fond, ça signifie quoi ? Ça veut dire qu'il fait comme si Dieu n'existait pas, ce qui, dans le domaine, on pourrait appeler l'agir humain, ça revient, de façon objective, à parier contre Dieu. Alors pourquoi, la question, pourquoi ce pari inaugural contre Dieu ? Parce qu'il y a potentiellement quelque chose de déresponsabilisant, quelque chose d'aliénant, ce qu'ont démontré par donc Marjolaine Pierre et Philippe Gorcuff, pour l'homme dans le pari pascalien. Pourquoi déresponsabilisant ? Pourquoi aliénant ? Parce que fait-on si Dieu n'existe pas ? Pour Camus, donc, si Dieu n'existe pas, parier pour lui, c'est courir un risque énorme. Le risque de fonder le sens de l'existence humaine sur un principe qui est à la fois hypothétique et un principe qui est à la fois illusoire. Principe hypothétique, principe illusoire. Ainsi, dans le mythe de Sisyphe, entre l'histoire et l'éternel, écrit Camus, j'ai choisi l'histoire parce que j'aime les certitudes. Entre l'histoire et l'éternel, j'ai choisi l'histoire parce que j'aime les certitudes. D'elle, du moins, je suis certain. Donc Camus voit dans la foi, et oui, le saut dans l'irrationnel. Il voit un saut dans l'irrationnel et donc mouvement de rupture par lequel l'esprit humain se détourne de la réalité. C'est-à-dire que le terme se détourner en latin divertere. Souvenez-vous, chez Pascal, c'était le divertissement, celui qui détourne. Mais chez Pascal, c'était le divertissement au sens premier qui empêchait d'aller vers Dieu. Lui le prend au contraire. C'est-à-dire que avoir la foi, c'est détourner de la réalité. Et donc, dès le moment où le principe de la foi, l'homme nie quelque chose de lui-même. Il nie sa raison. Il nie sa lucidité, sa raison lucide, sa conscience lucide. Donc, pour Camus, la foi est synonyme, est assimilée à une sorte de fidélité, j'allais dire de fidéisme inacceptable. Donc, ce que je montrais, c'est que l'athéisme de Camus n'est pas premier. Il n'est pas dogmatique, mais il est second. Il est pratique. Il est conséquent. Son athéisme, il n'est pas théiste. Enfin, son athéisme est non théiste face à l'absurde. Mais, il est antithéiste face au mal. Il est non théiste face à l'absurde, mais il est antithéiste face au mal. Si vous voulez, à mesure que la notion de mal se substitue à celle d'absurde, le non-théisme décidé au départ, évolue chez lui vers un antithéisme beaucoup plus véhément, beaucoup plus polémique, du fait que Dieu, en tant que créateur, enfin si toutefois il existe, aurait une énorme part de responsabilité dans l'existence du mal. Et ce, évidemment, c'est particulièrement évident dans la peste, qui symbolise l'existence du mal physique et moral. C'est-à-dire, en fait, toutes les pestes physiques, politiques et sociales de tous les temps. Alors, se contenter de penser chez lui la question de l'athéisme sans examiner dans sa forme l'affirmation fondamentale qui la sous-tend, c'est-à-dire l'humanisme, ce serait, dans l'œuvre de Camus, une approche beaucoup trop réductrice. Dans L'homme révolté, Camus écrit « Incroyant, il ne savait se reposer dans l'incroyance. Incroyant, il ne savait se reposer dans l'incroyance. » Si vous voulez, Camus n'est pas athée par plaisir de l'être. Mais il lui paraît évident de nier Dieu quand il veut rendre compte de l'homme, de l'humanité et de sa vie. Parce qu'il conçoit Dieu ou l'homme comme rival de l'homme. Mais on peut inverser. On pourrait dire aussi l'homme rival de Dieu ou Dieu rival de l'homme, si on inversait la proposition. D'où ce qu'on a appelé un peu, enfin certains critiques ont dénommé ça le caractère prométhéen de sa pensée. Prométhéen, rapidement, Prométhée. Mythe de Prométhée, vous savez, qui avait dérobé dans la mythologie le feu aux dieux, enfin le feu c'est le savoir, et qui le donne aux hommes, donc qui n'ont plus besoin, en étant l'équivalent des dieux, de croire aux dieux. On rappelle aussi que le mythe de Prométhée, on le retrouve particulièrement explicite chez deux poètes maudits au XIXe siècle, Rimbaud, et un autre un peu moins connu, Corbière, Tristan Corbière. Rimbaud, l'homme au semelles de vent, et Corbière qui se définissait, lui, comme un voleur d'étincelles. Donc, on a une allusion à ça. Donc, pensée prométhéenne. Et en même temps, pour expliquer la logique de la démarche de Camus, il faut rappeler qu'en 1957, Comment il avait conçu 1957, c'est Stockholm, prix Nobel. Comment il avait conçu l'ensemble de son œuvre. Je vous lis l'article. J'avais un plan précis quand j'ai commencé mon œuvre. Je voulais d'abord exprimer la négation. Ce terme désigne parfois l'absurde, sous trois formes. Romanesque, ce fut l'étranger. Dramatique. Caligula, le malentendu. Idéologique, le mythe de Sisyphe. Je n'aurais pu en parler si je ne l'avais vécu. Je n'ai aucune imagination. Mais c'était pour moi, si vous voulez bien, le doute méthodique de Descartes. Je savais que l'on ne peut vivre dans la négation, et je l'annonçais dans la préface au mythe de Sisyphe. Je prévoyais le positif. Le positif chez Camus, c'est la révolte. Sous trois formes encore. Romanesque, la peste. Dramatique, l'état de siège et les justes. Idéologique, l'homme révolté. J'entrevoyais déjà une troisième couche autour du thème de l'amour. Ce sont des projets que j'ai en train. Donc l'humanisme athée de Camus se déploie selon un triple dessin, une triple perspective. Une manière de concevoir le monde sans Dieu. Une manière de concevoir le monde sans Dieu, c'est l'absurde. Une manière d'y vivre, la révolte. Et une manière de s'y comporter, l'amour. Par l'absurde. Si on qualifie l'absurde par ces bandes frimas, je suis désolé, les petits microbes qui traînent dans l'air. Si on qualifie l'absurde en tant qu'expérience du non-sens de la vie, cela suppose l'athéisme et ça constitue un point d'appui à une révolte et à un amour athée. L'homme trouve son fondement ultime en lui-même et en lui seul. L'absurde, donc, pour Camus, c'est un départ, un commencement obligé, une sorte de donnée à partir de laquelle on peut et on doit construire. Mais je ne pense pas, qu'on puisse rien fonder sur sa seule découverte. Pourquoi ? Parce que l'absurde n'énonce aucune règle d'action. Simplement, il inaugure l'expérience radicale d'une sorte de dérobement sans fin. Ainsi, dans le mythe de Sisyphe, c'est une forme de descente. Voilà ce qu'écrit Camus. Si la descente se fait certains jours dans la douleur, elle peut se faire aussi dans la joie. Ce n'est pas de trop. J'imagine encore Sisyphe revenant vers son rocher. Et la douleur était au début. C'est pas le verbe, le début, la douleur. Quand les images de la terre tiennent trop fort au souvenir, quand l'appel du bonheur se fait trop pressant, il arrive que la tristesse se lève au cœur de l'homme. Et alors, c'est la victoire du rocher. C'est le rocher lui-même. Mais les vérités écrasantes périssent d'être connues. Ainsi Œdipe, par exemple, obéit d'abord au destin sans le savoir. Il voit, mais il est aveugle. À partir du moment où il sait, sa tragédie commence. Mais dans le même temps, puisqu'il se crève les yeux, il devient aveugle. Mais en même temps, il est clairvoyant. Il est clairvoyant, il reconnaît que le seul lien qui le rattache au monde, c'est la main fraîche d'une jeune fille, sa fille, Antigone. La main qui a manqué chrétien Christ, qui n'est pas venu secourir celui qui n'était pas si innocent que ça dans la chute. Et donc, je reprends la phrase de Camus, malgré tant d'épreuves, mon âge avancé et la grandeur de mon âme, me font juger que tout est bien. Et il termine, en fait, cette formule, c'est quoi? C'est la formule de la victoire absurde. C'est la formule qui indique que la sagesse antique, la sagesse antique rejoint l'héroïsme moderne. Et le mythe de Sisyphe, donc, a servi à Camus à traduire cette pensée en image. Sisyphe, c'est le héros absurde, c'est-à-dire le symbole de l'homme conscient de l'absurde, mais qui le surmonte. Vous savez qu'il est condamné à une tâche vaine et roulé vers le sommet, donc un rocher qui lui échappe et qu'il lui faut reprendre dans la plaine et puis hisser sans fin. Sisyphe, pour Camus, domine son destin, puisqu'il dit oui. Et donc, même Camus à la fin dit qu'il faut imaginer peut-être Sisyphe heureux. Donc, c'est absurde, ce pourrait être aussi la condition d'une existence assumée de manière authentique. Pourquoi ? Parce qu'il faudrait peut-être congédier tout espoir et récuser toute attitude d'évasion. Et si on fait cela, donc l'être humain se doit de faire face à l'absurde. Donc il s'agit d'une confrontation décidée, d'une confrontation incessante avec l'absurde. Et dans cette confrontation, l'homme se découvre révolté. L'absurde amène à la révolte. Et c'est dans la prise de conscience de l'absurde qui va de pair, qui s'accompagne plutôt de la révolte contre celui-ci que l'homme advient à lui-même et qu'il affirme sa dignité. Alors pour autant, évidemment, ça n'autorise pas, à mes yeux, enfin, d'être un saint sans Dieu. Et donc, Camus veut rendre l'homme à soi-même, en le délivrant d'une forme de consolation, de la consolation qui est liée à l'espérance illusoire d'une autre vie, qui l'empêche, cette autre vie, de reconnaître et d'assumer l'absurde comme tel. Alors ce sentiment de l'absurde, dont la fonction est peut-être, pour en discuter tout à l'heure, identique à celle du doute méthodique de Descartes, oriente Camus vers la découverte de la révolte. Vis-à-vis de cet absurde, Camus, tout en refusant l'évasion ou l'illusion de la croyance, choisit cette proposition. L'homme ne peut et ne doit vivre dans ce monde qu'à la condition de renoncer à un autre monde. L'homme ne peut et ne doit vivre dans ce monde qu'à la condition de renoncer à un autre monde. Alors ça amène à la révolte. La révolte qui, dans le mythe de Sisyphe, donc, est considérée encore que dans le mythe de Sisyphe, c'est l'aspect existentiel, l'aspect individuel. Et là, ça va prendre une dimension collective. Dimension collective, sociale et politique, pour devenir une valeur, donc, du coup, une valeur beaucoup plus positive, une valeur beaucoup plus positive et commune, trouve son aboutissement dans l'homme révolté. Le projet de Camus n'est pas seulement de fonder un humanisme de type existentiel, sur une compréhension individuelle de la révolte. Mais c'est bien plus large. Bien plus largement, c'est un humanisme social, politique, à partir d'une compréhension historique de cette dernière. C'est-à-dire qu'on passe de la révolte solitaire contre l'absurde,
révolte solitaire contre l'absurde, à la révolte solidaire contre le mal. Et, évidemment, ceux dans l'histoire. Et ça s'est vécu par la mise en relief, la mise en exergue d'un nouveau cogito. Je me révolte, donc nous sommes. Je me révolte, donc nous sommes. Et qui entend, c'est une sorte de principe fondateur de la nature humaine et qui va justifier la solidarité. Et qui, en même temps, comme principe régulateur de la révolte, empêche cette dernière de se perdre, d'être synonyme de nihilisme, et n'empêche de devenir une haine de l'homme et de la vie, au nom de l'absurde. Et ça ne permet plus à l'homme non plus de se réfugier dans le ressentiment, qui est la même haine déguisée sous les apparences d'une révolte généreuse. Et donc, dans l'homme révolté, en fait, il va remplacer le ressentiment, la haine, par l'amour. Et la révolte, chez lui, si elle veut se poursuivre, si elle veut continuer, si elle veut perdurer comme valeur, et donc éviter un double écueil, celui du nihilisme et celui du ressentiment, elle doit trouver plutôt son point d'appui en deçà d'elle-même et de l'absurde. Elle le trouve où, ce point d'appui? Elle le trouve dans l'amour, dans ce qu'il appelle un acquiescement originaire et ultime à la vie, c'est-à-dire à l'homme de chair, à la terre, au monde, qui, selon Camus, reste notre premier et notre dernier amour. Ce n'est pas parce que l'existence est absurde que l'homme révolté doit succomber à la tentation de tout nier. Et il faut donc, et ce, obligatoirement de manière inconditionnelle, préserver la valeur de la vie et de l'humain, donc, de trois façons, dans sa triple dimension, à la fois existentielle et individuelle, deuxième, historique et communautaire, et troisième, cosmique, en niant ce qui opprime l'homme, l'absurde et le mal. Donc, Camus a une perception physique, une perception aussi métaphysique de la dignité humaine. L'humanisme, chez lui, c'est pas un point de départ, c'est pas une base de sa pensée, mais ça constitue chez lui une conquête difficile sur l'absurde, sur le mal, sur le nihilisme. Une conquête difficile sur l'absurde, le mal et le nihilisme. Dans une lettre qu'il avait adressée à Roland Barthes en 1955, Camus écrit: comparé à l'étranger, la peste marque le passage d'une attitude de révolte solitaire à la reconnaissance d'une communauté dont il faut partager les luttes. S'il y a évolution de l'étranger à la peste, elle s'est faite dans le sens de la solidarité et de la participation. Donc chez Camus, la lucidité tragique n'interdit pas l'exigence d'humanité. Un pessimiste quant à la destinée humaine, je suis optimiste quant à l'homme. Et non pas au nom d'un humanisme qui m'a toujours paru court, mais au nom d'une ignorance qui essaie de ne rien nier. Une sorte de petit testament de Camus. Alors l'interrogation, la question revient. Peut-on être un saint sans Dieu? J'ai essayé de montrer, en fait, assez succinctement, quelle démarche sous-tendait donc la pensée de Camus, tout en ayant à chaque fois, enfin, on est toujours à l'esprit, que toute doctrine totalitaire chez Camus lui est odieuse. Ça, c'est un principe chimique. Toute doctrine totalitaire lui est odieuse parce qu'elle aliène, parce qu'elle mutile. Son ami Jean Grenier d'ailleurs qui lui avait communiqué son mépris pour l'esprit d'orthodoxie et son culte pour la pensée libre. C'était l'héritage le plus précieux, enfin c'est ce qu'il y a comme héritage le plus précieux dans l'esprit grec, le socratisme. Alors Jean Grenier, une petite lettre qu'avait écrit Jean Grenier à Camus disait: les Grecs ne niaient pas les dieux, mais ils leur réservaient leur part. Le christianisme, qui est une religion totale, ne peut admettre cet esprit. Telle est la tare rédhibitoire. Pour Jean Grenier, toute religion était totale, pas totalitaire, totale. Et toute religion est totale dès le moment où elle prétend apporter une vérité définitive et éternelle. Donc, la réponse à la problématique posée au départ sur peut-on être un saint sans Dieu, peut-être qu'on peut la trouver dans cette pensée du docteur Rieux, ce médecin, qui dit: tous les hommes qui, ne pouvant être des saints et refusant d'admettre les fléaux, s'efforce cependant d'être des médecins. Tous les hommes qui, ne pouvant être des saints et refusant d'admettre les fléaux, s'efforcent cependant d'être des médecins. Alors le substantif saint, il faudrait peut-être le gommer, l'enlever, puisqu'il est dans la pensée occidentale irrémédiablement attaché à l'idée de Dieu. Alors, est-ce qu'on peut, on pourrait formuler la question autrement, peut-on être un homme sans Dieu? Par la raison et le doute, la réponse me semble un peu évidente. Et puis, on pourrait aussi inverser. Est-ce qu'on peut être Dieu sans l'homme? Peut-on être Dieu sans l'homme? Dieu ne peut pas se passer de l'homme. Mais l'homme peut se passer de Dieu. Peut-être, en fait, faudrait-il que Dieu s'en fasse une raison. Bon, jeu de mots. Tandis que, peut-être que pendant ce temps-là, ces prêtres, ces imams et ces rabbins s'en feraient un discours. Puisque, il y aurait une forme de manipulation par le verbe. Ne serait pas cher. Mais, bon, et donc la manipulation par le verbe serait ainsi dévoilée, et puis peut-être que ça nous permettrait de faire cesser la préinterprétation des êtres et des choses. Alors, autre question peut-être, est-ce qu'on peut être un humaniste sans Dieu? Il me semble que Camus, si Philippe Corcuff était présent, il le qualifierait peut-être de social-démocrate libertaire, s'est comporté comme tel, comme humaniste sans Dieu, qui a un autre mérite, c'est qu'il a traversé, l'histoire sans, l'histoire avec un grand H, sans commettre beaucoup d'erreurs et sans beaucoup de compromissions par rapport à certains de ses contemporains. C'est peut-être cet humanisme, ce Camus, qui a combattu tous les totalitarismes dès le début. Peut-être ce Camus aussi qui a toujours été aux côtés des plus humbles et des exploités. Peut-être aussi ce Camus qui serait effaré à l'heure actuelle. J'avais dit dans mon introduction que je ne voudrais pas clore sans revenir au fait qu'un certain président de la République a récemment donc manifesté son désir d'accueillir les cendres d'Albert Camus au Panthéon. Alors, peut-être un nouveau projet, une nouvelle tentative de récupération. Je me permettrai de citer un court extrait de Michel Onfray. Michel Onfray, qui est un membre éminent de l'Université populaire, et qui a écrit une belle lettre ouverte au président en lui demandant de devenir, ça me fait pousser, camusien. Un petit extrait simplement. Mais monsieur le président, comment justifieriez-vous alors votre passion pour cet homme qui, le jour du discours de Suède, a tenu à le dédier à Louis Germain, l'instituteur, qui lui permit de sortir de la pauvreté et de la misère de son milieu d'origine en devenant par la culture, les livres, l'école, le savoir, celui que l'Académie suédoise honorait ce jour du Nobel. Car, je vous le rappelle, vous avez dit le 20 décembre 2007, au Palais du Latran, dans la transmission des valeurs et dans l'apprentissage de la différence entre le bien et le mal, l'instituteur ne pourra jamais remplacer le curé. Dès lors, c'est à la princesse de Clèves que Camus doit être devenu Camus, et non à la Bible. Donc Camus, demeure un grand homme, alors que d'autres se révèlent bien petits, même s'ils ont des talonnettes. Donc, à nous aussi de faire en sorte, là j'en ai pas beaucoup parlé parce qu'on n'a pas le temps, que nous ne laissions pas des Caligula ressurgir. Caligula, qui a dit que le ciel n'existait pas. Caligula qui disait aussi ça manque de sang dans la tableau. Et pour clore tout ce cycle, une petite phrase. Peut-être faut-il se garder de tous les prosélytismes subordeurs qui nous mènent tout droit à l'autodafé. Amsterdam. Et à la fin, c'est terrible. Il essaie d'être sauvé. Et puis, juste après, où il souhaiterait en fait qu'on le... Il souhaiterait à nouveau, peut-être qu'on le décapite, parce qu'il serait au-dessus des autres. La tête de Jean-Baptiste qu'on promène sur un plateau. Mais c'est un saint. Un saint, il est au-dessus. Même s'il n'a que la tête. Il essaie d'être sauvé et à la fin, il y a cette, ces mots qu'il voudrait entendre prononcer pour être sauvé. Il dit « Ô jeune fille, jette-toi encore dans l'eau pour que j'aie une seconde fois la chance de nous sauver tous les, de nous sauver tous les deux. » Une seconde fois, hein ? Quelle imprudence. Supposez, cher maître, qu'on nous prenne au mot. Il faudrait s'exécuter. Bon. L'eau est si froide. Mais rassurons-nous, il est trop tard maintenant. Il sera toujours trop tard, heureusement. Je dirais qu'il est froid. Bah, on pourrait dire aussi que quand on dit que Camus ne s'est pas compromis, il n'a pas commis beaucoup d'erreurs. Politiquement, c'est bon. 52, il dénonce tous les totalitarismes, à l'ouest, à l'est. Ce qui lui vaut la haine, d'ailleurs, d'un certain Jean-Paul. Pas qu'au loin. D'un certain Jean-Paul Sartre. Et puis aussi... parce que Camus était un enfant de la misère, un enfant du peuple, un petit pied noir boursier. Et Sartre et Simone de Beauvoir, il y avait une sorte de méfiance de classe sociale. Toute gauche prolétarienne. Et puis, pour reprendre ce qu'a dit Christine tout à l'heure, ben, je suis sûr que Camus dénoncerait ce qui se passe à l'heure actuelle, qu'il militerait pour RESF. Donc les Caligula sont là. Bah écoutez,
j'étais pas là au début, c'est pour ça que j'ai honte.
Le commencement était le verbe.
Voilà. Et c'est par rapport au solitaire, par rapport au passage du solitaire au solitaire.
Enfin, dans l'absurde, il est dans le solitaire.
Oui, voilà. Mais est-ce que ça s'est manifesté dans les moments, justement, parce que tu parles plutôt de moments politiques aussi, ou simplement.
Ben, il a dénoncé pas mal de trucs dans Mon Combat. En même temps, bon, ce qui m'intéressait, c'était pas trop la vie de Camus, c'était ses textes, à partir de ses textes. En fait, dans son œuvre, hein, j'ai pas fait une critique à partir de ce qu'on appelait à l'époque, vous savez qu'il y a plusieurs types de critiques en littérature, début du siècle, avec, enfin, depuis le 20e siècle, hein. Il y a eu ce qu'on appelle à la mode la clinique lansonienne, vous savez, Lanson, c'est-à-dire qu'on, pour expliquer des textes ou des œuvres, on partait de la vie de l'auteur, type Castex et Surer et Lagarde et Michard. Donc ça, c'est... Ah, il a fait ça, donc il a voulu mettre ça dans le texte. Puis après, il y a eu toutes les autres critiques, hein, la psychocritique, la critique marxiste, Barthes, la sociolinguistique, linguistique, puis Genette, enfin, etc. Il y a deux. En fait, Camus a essayé... Je ne sais pas qui est Camus, en fait, dans son texte. Alors certains ont dit, ouais, c'est le docteur Rieu. Pourquoi le docteur Rieu est Vataroux ? Et si c'était aussi ce juge intègre, ce juge pénitent, plutôt, parce qu'en fait, savez qu'il est à Amsterdam, et puis il est toujours face à un mur où il manque un tableau. C'est le tableau des juges intègres. Et lui, c'est un juge pénitent. C'est mieux parce que le juge intègre, il a moins de faculté de juger. Alors que le juge pénitent, il a fait pénitent, il est encore plus dur. D'ailleurs, il le dit, comparativement au jugement de Dieu, c'est encore une référence dans la chute, les hommes sont pires. Pourtant, je ne crois pas en Dieu. Les jugements des hommes sont pires. Alors lui, toujours, au moment de l'Algérie, il a dénoncé, hein. Ça c'est clair. Il a toujours été il a toujours manifesté pour l'indépendance de l'Algérie, contre l'oppression des peuples, il aurait trouvé bien aussi en ce moment, et puis contre tous les totalitarismes. C'est en 52 qu'il dénonce quand même. C'est en 52 qu'il dénonce le stalinisme. Bien avant d'autres. C'est en 52 qu'on le flamme. Que des philosophes et des écrivains qui après sont portés au pinacle flamment Camus. Mais il flamme Camus aussi parce que je pense Camus c'est un fils d'ouvrier. C'est un petit boursier. C'est pas quelqu'un du Sénat. En plus, c'est pas un métropolitain. Mais il ne faut pas oublier aussi non plus que Camus est en résistance, quand d'autres étaient profois dans la lycée du Havre. Bien au jour. Et ça, ce sont les mots. Oh bon, ben écoutez,
Enfin,
c'est
un saint,
absolument. Non, j'ai pas dit.
Si. Ah, la Touron, c'est un saint. On a trouvé le saint sans Dieu.
Ah oui.
Non ?
Oui, c'est. Mais il est tourmenté quand même par l'idée de Dieu. Mmh. Il est super présent dans son texte. Il y a deux. C'est vrai qu'il a. Il y a quelque chose en fait qui le fait. Qui lui fait toujours mal par rapport à Dieu, c'est la mort des enfants. La mort d'un enfant. Dans la peste, vous souvenez-vous, il y a un premier prêche d'un père qui s'appelle Banou. Au début, il dit, vous l'avez mérité la peste. Et puis Banou va voir mourir un enfant. Et il commence à douter. Et quand vous êtes prêtre, quand vous êtes pasteur, quand vous doutez, et qu'en même temps vous êtes prêtre ou pasteur, vous la fermez. C'est ce que va faire Panou. Camus, c'est pas tu. Parce que c'est un saint pour ça. Ce qui est bizarre, c'est qu'on veuille récupérer ses cendres. Bon, ben écoutez, on va peut-être clore. Eh bien, on vous remercie tous les membres fondateurs de l'UPN, l'Université Populaire de Nîmes. On vous remercie pour votre fidélité, votre soutien lors de ce cycle qu'on a passé ensemble. Et puis, on vous donne rendez-vous donc le 15 janvier à la salle Théris du lycée Daudet à 19h avec Enzo Traverso. Merci. 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 Merci.